D'ores et déjà, à travers les réflexions, les expériences, les témoignages recueillis dans les rubriques précédentes, on a pu découvrir toute une série de bonnes raisons d'accompagner nos élèves à distance grâce au TIS. Mais ne nous voilons pas la face, de telles pratiques sont aussi l'objet de polémiques au sein de notre profession. Or, l'équipe de la Web Radio n'a pas l'habitude d'éluder les questions qui fâchent. C'est pourquoi, dans la rubrique « Nos élèves et le réseau », Anne Burel, Philippe Godiveau et Marie Gauthier vont procéder à un échange polémique sur les limites et les dérives possibles de l'accompagnement à distance. Écoutons-les.
Alors, en effet, Serge, en ce qui me concerne, je trouve qu'à force de vouloir mettre des TIS dans la communication, on finit par la tuer. Entre le cahier de texte en ligne qui va devenir obligatoire, l'utilisation des forums, des emails même pour communiquer avec les élèves, voire avec les parents, je crains que l'on finisse par déshumaniser totalement les échanges.
Vraiment, Anne ? Franchement, tu exagères peut-être.
Écoute, si on prend l'utilisation du mail pour communiquer avec les élèves, alors pour qu'ils envoient des devoirs, qu'on leur rende ensuite leurs corrections, cela me pose vraiment un problème. Moi, j'essaye de donner des cadres à mes élèves, des repères, j'essaye de les structurer, de faire en sorte que la salle de classe revête un caractère un peu sacré, où on laisse tout ce qui ne fait pas partie du cours de français à la porte et, particulièrement, où on rend ses travaux à date fixée et pas n'importe quand au bon vouloir de l'élève. Pour moi, il y a un temps de l'école et il y a un temps hors de l'école. Et comment un échange de mails peut-il être en accord avec cela à partir du moment où l'élève peut envoyer son travail à l'heure qu'il souhaite ? C'est enlever le temps et le lieu de référence pour l'élève qui, en plus, du même coup, va rentrer dans le temps de la vie privée du professeur. Pour moi, il y a un réel danger de disparition de l'espace et du temps symbolique du cours.
Oui, effectivement, Anne, l'élève peut envoyer son mail à n'importe quelle heure de la journée. Mais le professeur fixe une date limite de remise du devoir, comme il l'imposerait pour des devoirs à présenter en classe. Par ailleurs, le professeur est habitué à corriger des devoirs en dehors de l'école. La pratique du mailing n'implique donc qu'un changement d'outil. Libre ensuite au professeur de consulter sa boîte mail professionnelle quand il le souhaite pour ne pas avoir l'impression d'être envahi par le travail dans sa vie privée. D'ailleurs, il peut se créer une adresse réservée aux élèves et aux parents.
Alors là, tu mentionnes l'échange de mails avec les parents, je t'arrête tout de suite. Pour moi, c'est hors de question. Si les parents veulent communiquer avec moi, il n'y a pas de problème, il y a le carnet de liaison, les rendez-vous, la conversation téléphonique. Ils peuvent me joindre très rapidement et très facilement. Je sais me rendre disponible, mais si tu veux ce que je disais tout à l'heure à propos des élèves, pour moi c'est encore plus criant avec les parents. Très honnêtement, je n'ai pas envie de recevoir un mail de parents un dimanche qui veut savoir quel travail il va y avoir à faire pour le lendemain, voire même qui va me demander en privé, par le mail, des détails sur une punition que j'ai pu donner à son enfant. Pour moi, mais c'est exactement comme si je recevais les parents chez moi pour m'entretenir de leur bambin. Et je trouve vraiment ce mélange des genres, de la sphère privée et de la sphère publique, très dangereux. Alors, je suis d'accord avec toi, ça ne concernera pas tous les parents. On sait très bien que certains parents, par contre, voudront des réponses immédiates. Les parents sont impatients quand il s'agit de leur enfant, c'est tout à fait normal. On sait très bien aussi, on est bien d'accord, que certains parents ne savent pas faire la part des choses entre ce qui est urgent et ce qui peut être différé. Donc c'est pour ça que, si tu veux, moi, j'aime le passage par le papier, par cette mise à distance du message différé qui, au moins en plus, permet aux esprits de prendre du recul et de ne pas communiquer à chaud.
Alors, attendez toutes les deux, on va peut-être calmer un petit peu les débats. Effectivement, le mail, l'utilisation du mail pose des problèmes. Jusqu'où peut-on accepter d'échanger avec les parents ? Est-ce qu'on échange sur des problèmes rencontrés en classe ? Où va se situer la limite ? Mais j'aimerais quand même te rappeler, Anne, qu'une boîte mail, tout d'abord, cela s'ouvre ou ne s'ouvre pas, donc on peut très bien avoir le respect de sa vie privée, et qu'il ne faut pas basculer dans la caricature. Le mail ne remplacera jamais effectivement un échange de visu, une réunion. Donc il ne faut pas faire de l'outil ce qu'il n'est pas.
Alors, par rapport à ce que tu disais, hein, et puis par rapport à certains exemples qui ont été évoqués, moi, très honnêtement, je pense qu'on peut se passer du mail. Indiquer un travail manquant sur le carnet de liaison, si le parent m'interroge, il peut toujours, via le carnet de liaison, hein, j'insiste là-dessus, au moment de signer une observation que j'aurais faite, me formuler sa demande précise sur cet outil de communication. Sinon, très honnêtement, pour moi, il n'y a plus de limite, et je l'avoue, hein, j'ai vraiment l'impression qu'avec le mailing, un échange avec les parents, je serai amenée à devoir rendre des comptes en permanence sur ce que je fais et sur les décisions que je prends. Voilà. Et puis, bon, tout à l'heure, j'ai évoqué l'impatience des parents. Je voudrais revenir sur l'impatience, mais cette fois-ci, celle des enfants. Parce que elle aussi, c'est à mon avis un souci. Hein, si les élèves envoient un document, on sait très bien qu'ils attendent une réponse quasi immédiate, comme ils le font d'ailleurs avec leurs copains lors d'échanges d'SMS, voire sur des sites de discussion en ligne. Donc par nature, on sait que les adolescents sont impatients, et je trouve que ce mode de communication ne fait que renforcer cette impatience, cette impression d'immédiateté et d'instantanéité.
Oui, mais excuse-moi là, ma chère Anne. Tu es tout bonnement de mauvaise foi. Parce que quel est le professeur qui n'a jamais entendu « Madame, monsieur, est-ce que vous avez corrigé les contrôles ?» alors qu'on venait tout juste de le faire faire par les élèves. Donc, il faut envisager la pratique du mailing comme quelque chose qui n'est pas forcément envahissant. Il faut apprendre aussi aux élèves à se servir de l'outil. Et pour moi, qui le pratique régulièrement, je peux dire qu'on a plutôt affaire à quelque chose qui pêche par, encore une fois, la caricature, les élèves en faisant beaucoup, étant très polis avec nous, plutôt que pêcher par l'abondance d'écrits.
Oui, ça reste encore à prouver. Hein. Moi, j'ai essayé une fois d'utiliser le webmail interne sur le réseau de mon établissement. Au niveau de la communication, je t'avouerai franchement, je n'étais pas vraiment satisfaite. Ils ne savent pas envoyer un mail correctement. De temps en temps, ils ne comportent pas d'objet. Tout à l'heure, je critiquais la formulation de leur texte quand il y en a un corps de texte. De temps en temps, l'envoi de pièces jointes, alors c'est du grand n'importe quoi. Parfois, j'ai bien la pièce jointe, mais elle n'est pas au bon format. Ce qui diffère dans mon organisation, le rendu de la copie, hein, et donc aussi le moment de sa correction.
Oui, mais alors attends, Anne, être capable d'envoyer un mail entre dans les compétences à acquérir pour l'élève. Le professeur peut et doit partir du principe que malgré leur utilisation fréquente de forums de discussion ou de MSN, les élèves n'ont pas forcément la pratique du mailing. Certains élèves ne savent même pas parfois que leur adresse MSN peut être aussi une adresse mail. Or, le professeur retrouve ici sa fonction première qui est d'enseigner et de faire acquérir une compétence. Trop souvent, peut-être, le professeur se sent-il démuni face à la très grande fréquentation d'Internet par les élèves, mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils en aient l'absolue maîtrise, bien au contraire.
Honnêtement, pour moi, c'est plus une source de perturbation dans ma programmation qu'autre chose. Si encore, ça apportait quelque chose à mon cours, mais sincèrement, je ne vois pas ce que ça peut m'apporter, malgré ce que vous me dites, en dehors peut-être d'un gros virus sur mon ordinateur.
Oui, alors certes, le mailing implique un changement des pratiques. L'objectif est d'inciter l'élève à être plus autonome, à se servir de ce mode de communication pour rendre ses devoirs. On apporte ainsi une plus-value au cours de français et le professeur donne à l'outil Internet, et en particulier le mail, une visée pédagogique et pas seulement privée. Le mailing permet également une rapidité dans les échanges qui montre une évolution du cours de français et donne à l'élève une autre perception de cet enseignement. En effet, le premier avantage que voient les élèves, par exemple, pour le traitement de texte, c'est la possibilité de faire des modifications en vue d'améliorer sans avoir à réécrire tout le texte. Les élèves rejettent moins l'exercice de la rédaction et le travail de l'écriture, même si celui-ci demeure important et qu'il n'est pas à négliger. Il faut reconnaître avec évidence qu'inclure ces pratiques dans le cours de français varie l'approche des exercices.
Oui. Mais là, ce que tu évoques, ce sont les avantages du traitement de texte, pas du mailing. Hein, rien ne m'empêche d'annoter un brouillon dactylographié qui a été imprimé par l'élève. L'élève l'a enregistré chez lui et donc après, il peut très bien l'améliorer en suivant mes conseils manuscrits.
Oui, certes, mais inclure la pratique du mailing ajoute une distance professeur-élève ou entre pairs qui permet à l'élève de se sentir moins jugé, voire déprécié. L'élève peut travailler seul, devant son écran, dans son univers et envoyer son devoir par mail. Enfin, c'est aussi parfois une opportunité pour un élève trop timide de prendre la parole, de poser des questions à son enseignant, alors qu'il ne l'osait pas devant la classe.
Des mails, mais on croule sous les mails avec vous les filles. Mais il y a aussi le cahier de texte en ligne. Contrairement au cahier de texte papier, le professeur peut y mettre des fichiers de travail, du son, des textes, etc. et amener les élèves à avoir des pratiques variées.
Alors moi j'ai déjà dit mes réserves sur le cahier de texte en ligne et maintenant qu'il est arrivé dans mon établissement, je dois avouer que j'en ai d'autres. D'abord, c'est la première fois que ça m'arrive, je dois maintenant exiger fermement de mes élèves qu'ils notent leur travail dans le cahier de texte en ligne, dans leur cahier de texte personnel ou dans leur agenda personnel. Parce que maintenant, ils me disent « Oh mais c'est pas grave madame, vous savez, je le prends pas, mais ce soir, je vais regarder dans le cahier de texte en ligne. »
Oui, alors écoute, là, il s'agit là, si je puis me permettre, d'un faux problème. En effet, support numérique ou papier, rien ne dédouane l'élève de prendre son travail sur son agenda ou cahier de texte. Celui de la classe est une mémoire du travail effectué, comme il l'a toujours été. Mais à cela s'ajoute une dimension d'enrichissement par des documents qui ne relèvent pas du format papier. Recevoir cet argument reviendrait à faire un mélange des genres sans réel fondement.
Oui, enfin, on voit bien que tu n'as pas mes élèves. Sinon, donc, autre point, je n'ai pas toujours le temps, moi je dois l'avouer, de remplir le cahier de texte numérique à la fin de l'heure. L'autre jour, je n'ai pas pu le remplir. Il y avait des problèmes de connexion, c'était terrible. Je suis rentrée chez moi, rebelote, pas de connexion internet de la soirée, ma Freebox a tourné en boucle. Le lendemain, un élève, bingo, je n'ai pas pu faire mon travail car le cahier de texte en ligne n'était pas rempli. Ma maman, elle a regardé avec moi, alors qu'en plus, je leur avais dicté le travail à faire. Donc bon, soyons honnêtes, c'est vrai, on ne remplissait pas toujours le cahier de texte papier le jour même, à l'heure dite, on le remplissait quelques fois plus tard, on différait un petit peu le moment. Et maintenant, très honnêtement, c'est impossible. C'est impossible d'avoir un imprévu, d'avoir une panne, parce que parents comme enfants, on arrive à nous demander des comptes.
Alors ma chère Anne, arrêtons-nous deux secondes. Là, je vais te rappeler à la réalité cruelle du terrain. Première chose, je te rappelle que si tu ne remplis pas ton cahier de texte, eh bien si tu ne le remplis pas, tu fais une faute professionnelle. Et oui, on n'a pas peur des mots, c'est une faute professionnelle. Deuxième chose, il est vrai que personne n'est infaillible. On peut tous avoir un petit souci. Donc moi, ce que je te recommande, eh bien, c'est de prendre de l'avance et de remplir un petit peu ton cahier de texte à l'avance.
Oui, enfin bon, moi je veux bien essayer de le remplir à l'avance, à condition que mon ordinateur fonctionne.
Oui, mais alors là, tu rejettes le problème du côté matériel. Alors la première chose que j'indiquerai à ceux qui nous écoutent, c'est que si on ne veut pas avoir de problème, il faut savoir planifier son travail. C'est-à-dire ne pas donner du travail du jour pour le lendemain, mais par exemple à une semaine de distance, ce qui fait que l'élève ne peut plus te dire « Ah, mais je n'ai pas pu regarder le cahier et je ne le savais pas, madame ». D'autre part, pour toi, solution, c'est de tout simplement prévoir ton cahier de texte à l'avance. Je te rappelle que les articles ne paraissent qu'à date échue, donc tu ne prends strictement aucun risque, si ce n'est celui de ne plus être tributaire de ta box.
Bon, d'accord. Autre point aussi sur lequel on a déjà débattu ensemble, qu'est-ce qui se passe si cette fois-ci, c'est l'élève qui n'a pas accès au cahier de texte numérique chez lui ? Il y a quand même un vrai, vrai risque de fracture là, numérique.
Oui, c'est un réel problème qui ne peut se régler que par la volonté de mettre à disposition des lieux réservés à la consultation. Le CDI, les salles de technologie, la salle informatique ou des salles dédiées. Il n'y a pas une solution à ce problème, mais un panel qui doit être envisagé selon la situation de chaque établissement.
Oui, sans doute, Marie. En fait, de plus en plus, les établissements sont dotés d'ordinateurs. Et donc, on peut imaginer que s'instaurent à l'intérieur de l'établissement et même au dehors des discussions sur forum, ce qui enrichit encore davantage les pratiques du cours de français.
Alors, pour moi, le forum des trois thèmes que vous avez voulu aborder cet après-midi, c'est vraiment celui pour lequel je suis la plus sceptique. Le forum, bon, les élèves le pratiquent déjà. Il suffit d'aller sur Internet un petit peu pour s'en rendre compte. Il faut voir dans quelle langue, sur quel thème. Alors, ne le prenez pas mal, mais je trouve quand même cela excessivement démagogique de récupérer ces pratiques quotidiennes pour travailler le français.
Alors là, je suis choqué. un professeur de lettres, de langues anciennes, qui ose me dire qu'un forum est démagogique. Le forum présent dans l'Antiquité. Le forum où on échangeait. Mais c'est bien ça, la réalité du forum. Elle n'a pas changé. L'idée du forum pour un enseignant, c'est de faire participer ses élèves, qu'ils s'écoutent les uns les autres, qu'ils argumentent. Donc, autant de compétences qui sont à développer en classe de français. Par ailleurs, ce forum qui n'est pas au sein de la classe permet à certains élèves un peu plus timorés, un peu plus craintifs de pouvoir prendre la parole. N'est-ce pas là quand même une avancée, une plus-value pédagogique ?
Bon, admettons que ce soit utilisé, que ce soit utile pour l'argumentation, comme tu l'évoquais tout de suite. Bon, j'ai quand même un doute, mais admettons, puisque je n'ai jamais testé. Hein. Donc, mais alors, moi, là, il faut que tu m'expliques mon rôle. Quel va-t-il être en tant que professeur de français, entre la correction de la langue, la maîtrise de l'échange argumenté? Comment est-ce que je gère tout ça et comment est-ce que je peux être efficace en participant à cet échange?
Alors écoute, moi je pense que c'est là qu'intervient la compétence 7 du socle, celle liée à l'autonomie. Un enseignant peut très bien être modérateur du forum qui se met en place, ainsi il réoriente les élèves quand ils sont dans une impasse, débloque des situations, ou bien alors prend le parti d'être absent du débat, et d'accorder à un autre élève le rôle de modérateur. Tout dépendra des objectifs que le professeur se sera fixé dans cette activité.
Et puis moi, il y a un petit mot qui a fait écho. Tu as parlé d'efficacité. Si tu utilises un forum, tu peux faire travailler tes élèves sans prendre du temps sur ton cours. Et donc, tu peux être plus efficace en bénéficiant d'un matériau qu'ils auront eux-mêmes élaboré.
D'accord. Et ça va me prendre combien de temps, tout ça, pour un gain pédagogique qui n'est peut-être pas assuré ?
Là encore, mauvaise foi, tu sais très bien qu'aucune démarche pédagogique n'assure un succès immédiat et un succès obligatoire, si on avait la recette, malheureusement. Alors, il est vrai que tu vas investir du temps, ça je suis d'accord avec toi. Mais il est vrai aussi qu'une chose, les élèves vont devenir autonomes très rapidement avec l'ETIS. Et donc ce temps investi, ensuite, te sera rendu au centuple.
Bon, je veux rassurer les auditeurs, nos trois intervenants ne se sont pas entretués. Hein ? Mais en les écoutant, on entend bien les interrogations et les préoccupations de chacun. On entend aussi beaucoup de préjugés auxquels il fallait apporter des réponses précises. Bien sûr, le débat n'est pas clos, mais cet échange a eu le mérite de fixer les idées et de fournir matière à réflexion en toute connaissance de cause.